Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur Internet sur le site cause-commune.fm. Et donc c'est parti pour la première édition de l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Donc je suis Frédéric Couchet, je suis le délégué général de l'April. D'autres personnes de l'équipe sont avec moi et interviendront dans l'émission. Et nous allons bien sûr bientôt faire un tour de table de présentation. Alors c'est notre première émission, donc on compte sur votre indulgence et bienveillance. Pour cette première émission, nous ne sommes pas en direct, mais pour la prochaine, nous diffuserons en direct. Le site de référence de l'April, c'est april.org, donc A-P-R-I-L.org, et vous y retrouverez une page notamment consacrée à cette émission avec l'ensemble des liens, références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de cette émission. Donc le principal lien que vous avez à retenir, c'est april.org. Et le second, c'est cause-commune.fm. Et n'hésitez pas à nous faire des retours, que ce soit des retours sur ce qui vous a plu, et évidemment aussi des retours sur les points d'amélioration. Et nous vous souhaitons une excellente écoute. Donc, nous allons d'abord faire un rapide tour de table. Bonjour Isabella, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Oui, bonjour. Donc, je suis coordinatrice vie associative et responsable projet pour l'April depuis 2014.
Voilà. Merci. Étienne ?
Bonjour, moi je m'occupe des affaires institutionnelles pour l'April depuis de janvier 2006 maintenant.
Merci Étienne. Nous avons également avec nous, nous avons la chance d'avoir avec nous par téléphone Marc Ress. Marc, est-ce que tu nous entends ?
Oui, je vous entends très bien. La chance, je ne sais pas, enfin en tout cas j'espère.
Donc Marc, tu es rédacteur en chef de Next Impact. Tu peux nous dire en une phrase ce que est ce site Next Impact ?
Bon, c'est un site qui existe depuis plusieurs années et qui est dédié, spécialisé dans les nouvelles technologies. Et moi-même, je suis spécialisé dans le droit des nouvelles technologies.
D'accord, merci. Donc, et c'est un site effectivement très important à la fois sur l'informatique, mais aussi sur l'actualité politique et juridique liée à l'informatique. Et au cours de l'émission, nous aurons le plaisir d'avoir la sénatrice Joëlle Garriaud-Mellame que nous avons interviewée au Sénat il y a quelques semaines. Alors d'abord, je vais vous présenter rapidement l'émission et ses objectifs. Donc l'émission Libre à vous sera principalement animée par l'équipe salariée de l'April, mais aussi par des membres bénévoles de l'association. Et nous aurons évidemment des invités, comme aujourd'hui par exemple Marc Ress. Cette émission se veut avant tout une émission d'explication et d'échange concernant les dossiers politiques et juridiques que l'association peut traiter, donc principalement autour des libertés informatiques et du logiciel libre en premier, et les actions que nous menons de son sens. Et une partie de l'émission sera également consacrée aux actualités et actions de type sensibilisation. Donc on essaiera de toucher à la fois les personnes qui ne connaissent pas forcément très bien le logiciel libre jusqu'aux personnes qui connaissent très bien. Nous espérons ainsi donner à chacun et chacune de manière simple et accessible, si possible, les clés pour comprendre les enjeux, mais aussi nous proposerons des moyens d'action pour nous accompagner dans nos actions en faveur des libertés informatiques. Donc tels sont les objectifs de cette émission qui sera une mensuelle diffusée en direct chaque premier mardi du mois de 15h30 à 17h, donc excepté pour cette première émission qui est enregistrée. Et je vous rappelle que vous retrouverez toutes les informations utiles sur le site de april.org. Alors maintenant, on va passer à l'annonce du programme de l'émission, de cette première émission. Donc aujourd'hui, d'ici une trentaine de minutes, on abordera notre dossier principal qui concerne les relations privilégiées entre Microsoft et l'État français, et plus précisément ce qu'on appelle le contrat Open Bar Microsoft Défense. Alors c'est important de parler de ça parce que ces relations privilégiées sont un frein important au développement du logiciel libre dans le secteur public. Mais avant cela, nous allons parler de logiciel libre. Nous allons présenter notre slogan « Priorité au logiciel libre » à la fois au niveau individuel et collectif. Nous allons présenter le groupe de travail sensibilisation de l'April et aussi des moyens de découvrir concrètement le logiciel libre pour tout le monde. D'abord, nous allons commencer par une présentation de ce qu'est le logiciel libre. Alors, nous avons fait le choix de diffuser un audio qui est un extrait d'une vidéo d'un site qui s'appelle « Qu'est-ce que tu geeks ?» réalisé par Flo et Tom. Alors, l'objectif de ce site, de ces deux personnes, c'est de vulgariser l'informatique pour le grand public. Donc on a trouvé intéressant de vous passer une partie de cet audio, les cinq premières minutes, parce que ça présente assez fidèlement ce qu'est le logiciel libre. Et puis c'est intéressant de valoriser les actions que font les autres, des actions qui sont diffusées sous licence libre. C'est un petit peu quand même ce qu'on défend ici. Donc on va vous laisser pendant cinq minutes avec Flo et Tom qui vont vous présenter ce qu'est le logiciel libre.
Est-ce que vous connaissez le point commun entre Firefox, VLC, WordPress, Android et Blender ?
Oui, moi, ce sont des logiciels gratuits.
Alors oui, c'est vrai, mais ce sont surtout des logiciels libres.
Mais qu'est-ce que c'est-il donc un logiciel libre ?
Le logiciel libre peut se définir en trois mots. Liberté, égalité fraternité.
C'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Le logiciel libre, même si on ne s'en rend pas forcément compte, occupe une place prépondérante dans notre société. D'ailleurs, nous avons cité plusieurs fois les expressions logiciel libre et open source dans nos précédentes vidéos. Et comme vous nous l'avez demandé plusieurs fois, il est grand temps qu'on vous explique.
La réexploitation de notre devise nationale pour définir le logiciel libre nous vient de Richard Stallman, qui n'est autre que le créateur du mouvement du logiciel libre.
Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Liberté, parce que cela respecte la liberté des utilisateurs. Égalité, parce que tous les utilisateurs disposent des mêmes libertés et parce que personne n'a de pouvoir sur personne. Et fraternité, parce que chaque utilisateur peut collaborer et partager avec les autres utilisateurs.
C'est donc l'utilisateur qui a le contrôle sur le logiciel et pas le contraire.
Ça veut dire que si un logiciel est libre, il est fourni avec 4 libertés.
On peut l'utiliser comme on le souhaite. On peut étudier son comportement et l'adapter. On peut créer et distribuer des copies. Et on peut le modifier et redistribuer les versions qu'on a modifiées.
Et tout cela est réalisable notamment parce qu'on a accès au code source du logiciel. Le code source, c'est l'ensemble des instructions qui permettent de fabriquer un logiciel. Et un logiciel qui donne accès à son code source est qualifié d'open source.
En gros, le concept fondamental derrière tout ça, c'est la maîtrise et l'évolution de nos logiciels. Et c'est super important à une époque où il y a du code informatique dans tout. Il y en a dans nos téléphones, dans nos voitures, dans nos réfrigérateurs, et même dans certaines poubelles.
Et en plus de tout ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est gratuit.
C'est gratuit, mais ça ne veut pas dire que tous les logiciels gratuits sont libres. Il existe aussi des logiciels gratuits privateurs.
Le logiciel libre s'oppose en effet au logiciel privateur, couramment appelé logiciel propriétaire. Il est souvent produit par une entreprise qui conserve les sources cachées et qui demande une contrepartie à l'utilisateur pour accéder à son produit. Il prive l'utilisateur de différentes libertés comme celle de savoir comment sont traitées ces données à l'intérieur.
Le ticket d'accès peut être monnayé, comme pour les produits de Microsoft ou d'Apple, ou être gratuit comme pour les produits de Google ou de Facebook. Mais en échange, il récupère vos données pour vous proposer des publicités adaptées.
Le logiciel privateur et libre s'oppose encore de bien des façons. Très souvent, le logiciel privateur est l'offre d'une entreprise qui répond à un besoin pour faire de l'argent et donc pour survivre. A contrario, le logiciel libre répond la plupart du temps simplement à la demande d'une communauté sans le biais de la rentabilité.
Une autre différence fondamentale est la gouvernance du développement, qui d'une part émane d'une décision hiérarchique dirigée par la rentabilité à plus ou moins court terme, et d'autre part d'un accord de communauté.
Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de communauté avec un leader tyrannique et des entreprises libérées où les choix sont démocratiques. Mais ces deux cas ne sont pas la norme.
Il y a un autre point important qui différencie les deux approches. Le comportement du logiciel et l'utilisation qui est faite des données collectées.
Le fait d'avoir accès aux sources d'un logiciel libre permet de vérifier ce qu'il fait et d'être sûr qu'il n'a pas un comportement non désiré caché dans son code. Espionnage, détournement, etc.
Alors oui, vous allez peut-être nous dire
« Mais moi, j'y connais rien en code, alors comment est-ce que je vais bien pouvoir vérifier ?»
Vous pouvez vous appuyer sur une communauté qui aura pu le faire. Et tout comme vous pouvez lire les avis à propos d'un article avant de l'acheter, les avis sur les logiciels libres sont florissants. Avec un avantage en plus, c'est que l'auteur de l'avis a la possibilité de proposer lui-même l'amélioration souhaitée.
À ce propos, le vecteur principal qui permet aux logiciels libres de vivre, c'est la contribution, c'est-à-dire les propositions de modification du logiciel. Celles-ci peuvent être apportées par des bénévoles, mais aussi par des employés d'entreprise qui ont compris l'importance de cette action.
D'ailleurs, il existe beaucoup de formes de contribution. On peut effectivement directement modifier le code du logiciel, mais il existe une myriade d'autres façons d'aider. On peut par exemple en parler à ses amis, ou dessiner un logo pour une application, ou participer à la traduction.
Ou encore corriger les fautes d'orthographe, donner son retour utilisateur, relire les documentations. Vous commencez à le comprendre, ce n'est pas parce que les logiciels libres sont accessibles gratuitement qu'ils ne nécessitent pas de moyens.
Et d'ailleurs, certains développeurs et certaines entreprises en ont fait leur activité principale. Alors, comment font-ils pour vivre? Ou plus généralement, est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec un logiciel libre?
Oui.
Et il y a d'ailleurs plusieurs possibilités pour cela. Fournir du support payant, mettre en avant un partenaire, avoir une offre de service créée autour de son logiciel ou demander des dons aux utilisateurs.
À ce propos, on vous rappelle que nos vidéos, elles aussi, sont libres. Nous travaillons activement sur le financement de notre activité et pour ça, on a commencé par mettre en place une page Tipeee. Cette page Tipeee nous permet, si vous le souhaitez et vous le pouvez, de recevoir vos dons.
Ben vous venez d'entendre donc un extrait vidéo donc de présentation du logiciel libre qui est fait par Flo et Tom du site Qu'est-ce que tu geek. Donc vous retrouverez la référence sur le site de l'April, je vous rappelle, april.org. Alors évidemment, beaucoup termes ont été utilisés, la présentation a abordé pas mal de sujets. Nous aurons l'occasion, lors des prochaines émissions, de préciser des points, notamment sur la gratuité, sur logiciel libre versus open source, de revenir sur les quatre libertés fondamentales, également les modèles économiques qui montrent qu'on peut vivre avec, en faisant du logiciel libre. La vidéo a parlé de la contribution, mais justement, tout à l'heure, on parlera un petit peu de contribution et comment contribuer au logiciel libre. Mais en gros, voilà, l'essentiel à retenir, c'est qu'aujourd'hui, les ordinateurs sont, et l'informatique sont omniprésents dans notre vie. Il est important pour cela d'avoir un contrôle de nos outils. Et finalement, le logiciel libre n'est pas simplement une alternative technique au logiciel privateur. C'est avant tout un socle pour nos libertés et une philosophie basée sur le partage et l'ouverture. Donc voilà, qu'est-ce que tu geeks ? Vous retrouverez toutes les informations sur le site de l'April. Et merci à Flo et Tom. Cette vidéo est en licence libre en Creative Commons. Donc maintenant, nous allons passer à un slogan de l'April, qui est le slogan de priorité au logiciel libre, que nous défendons et que nous en poussons depuis plusieurs années, donc à la fois à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Donc Isabella, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette notion de priorité au logiciel libre à titre individuel ?
Oui, donc tout à l'heure, tu rappelais justement que l'informatique est au cœur de notre vie. Donc c'est important, c'est d'autant plus important de reprendre le contrôle de notre informatique au quotidien et de choisir donc une informatique qui ne nous servit pas, qui ne nous renferme pas, mais qui au contraire respecte nos libertés. Donc voilà.
Donc en fait l'idée c'est pour les choix informatiques individuels, pas forcément de passer du jour au lendemain à tout logiciel libre, mais pour un outil particulier, se dire je vais plutôt préférer le logiciel libre. Un exemple de bureautique par exemple.
Tout à fait. Par exemple, on peut commencer à utiliser une suite bureautique alternative à la suite que tout le monde connaît. C'est une suite qui s'appelle LibreOffice et qui contient justement un tableur, un éditeur de texte qui ont toutes les fonctionnalités que vous connaissez dans l'autre suite privatrice. Et donc, on peut déjà commencer par cela. On peut aussi commencer par utiliser un navigateur libre comme Firefox. Voilà, donc on peut commencer effectivement par l'utilisation de certains logiciels et puis décider un jour de changer aussi son système d'exploitation et de passer à un système d'exploitation libre.
Merci Isabella. Alors, ça c'est la partie individuelle, mais il y a la déclinaison on va dire collective de cette priorité au logiciel libre. Donc Étienne, est-ce que tu peux nous donner quelques détails ?
Bien sûr. Bah, effectivement, si on part du principe qu'on vit en société, il y a un aspect qui est évident, c'est que les libertés doivent aussi se penser collectivement. Alors nous, ça se traduit dans notre action par le fait de dire que les administrations publiques, qu'elles soient locales ou nationales, d'ailleurs notamment financées par l'impôt, ce qui est important, doivent donner priorité au logiciel libre. Concrètement, de manière assez simple, on peut imaginer dans un cadre d'un marché public, c'est simplement de dire que pour une administration, dans ses besoins, elle a besoin d'accéder au code source, elle a besoin de pouvoir mutualiser, de pouvoir partager, de pouvoir agir sur l'informatique de manière souveraine. On reviendra d'ailleurs sur ce point. Ça nécessite donc d'acter dans la loi déjà que les administrations doivent donner priorité au logiciel libre et ça doit également s'accompagner bien sûr d'une politique publique globale et cohérente pour agir pour le logiciel libre.
Écoute, merci Étienne. Nous aurons l'occasion dans une prochaine émission sans doute d'inviter des collectivités pour expliquer comment elles mettent en œuvre cette priorité au logiciel libre. Et dans le cadre de la discussion tout à l'heure sur le dossier Open Bar Microsoft Défense, nous reviendrons sur ce sujet. Mais avant, nous allons faire une petite pause musicale. Alors nous avons fait le choix de n'utiliser que des musiques diffusées sous licence libre. La plupart viennent du site dogmazic.net. Donc vous retrouverez évidemment les références sur le site de l'April. Donc la première pause musicale, c'est The Small Tooth Dog par Alliance Division, donc un petit morceau qui dure 4 minutes, et on revient juste après.
Cause commune, 93.1, la voix des possibles. cause commune, cause-commune.fm.
Vous venez d'entendre The Small Tooth Dog d'Alliance Division et je vous rappelle que vous retrouverez toutes les informations sur le site de l'April, apriel.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, dont je suis toujours Frédéric Couchet, délégué général de l'association. Isabella, Vanny, Étienne Gonu sont toujours là, Marc Ress nous écoute au téléphone. Donc maintenant nous allons aborder le sujet de la sensibilisation et notamment du groupe de travail sensibilisation de l'April. Et Isabella, toi qui es l'animatrice de ce groupe, est-ce que tu peux nous présenter le fonctionnement de ce groupe, les objectifs et puis peut-être quelques réalisations?
Très bien. Donc, le groupe de travail sensibilisation est l'un de nombreux groupes de travail de l'April. Et son but est de proposer des outils de communication pour sensibiliser le public au logiciel libre. Donc, les ressources peuvent être très variées. Il peut s'agir de flyers, de tracts, d'affiches, de guides. Mais on peut avoir aussi des goodies comme des stickers, des t-shirts et aussi des œuvres artistiques et des expositions comme on verra tout à l'heure. L'objectif est double. D'un côté, on a besoin de documents, de ressources de sensibilisation à présenter sur nos stands. Donc, pour promouvoir le logiciel libre auprès du public. Et de l'autre côté, c'est aussi de mettre à disposition ces ressources à toute personne, association ou structure quelconque, qui souhaite justement sensibiliser autour de soi au logiciel libre. Donc, toutes nos ressources sont disponibles et téléchargeables, souvent en plusieurs formats, sur notre site pour cette raison. Par exemple, en 2016, lors du festival NUMOC, donc, qui est le festival numérique des bibliothèques de Paris, il y a deux bibliothèques parisiennes qui ont vu qu'on avait produit une ressource qui pouvait être très intéressante. Il s'agissait de l'Expo Libre, donc c'est le fruit du travail du groupe travail et sensibilisation, et c'est une exposition en 7 panneaux. Qui décrit les principes, la philosophie du logiciel libre. Et voilà, donc ces deux bibliothèques ont pu l'exposer. D'ailleurs, vous pouvez trouver les photos de ces expositions sur notre galerie de photos. L'Expo Libre, si vous êtes intéressé, est téléchargeable sur le site dédié. Elle est déjà disponible en français et en anglais.
Le site, c'est expolibre.org.
Merci, Fred. Donc, elle est déjà disponible en français et en anglais. Et grâce au travail de nos bénévoles traducteurs, elle sera bientôt, très bientôt, disponible en espagnol. Si vous voulez, nous, on propose aussi l'Expo Libre à la location, imprimé sur bâche grand format. Vous trouvez toutes les informations sur le site dédié et expolibre.org.
Et alors, la réalisation de l'Expo Libre est intéressante parce que dans le cadre du groupe sensibilisation, ça fait intervenir un graphiste pour la mise en page finale de l'Expo Libre, un graphiste bénévole, mais aussi les contributions des gens du groupe de travail sensibilisation qui ne sont pas forcément informaticiens pour justement rendre accessibles ces panneaux au grand public. C'est vraiment des panneaux sur lesquels vraiment n'importe qui peut comprendre les enjeux fondamentaux. Donc il y a 7 panneaux qui déclinent différents aspects du logiciel libre. Il y a un panneau sur le logiciel libre, il y a un panneau sur l'éducation et l'importance du logiciel libre. Et donc voilà, là c'est un exemple de travail qui est fait avec des compétences diverses.
Tout à fait. Et d'ailleurs, je tiens à dire que le groupe de travail sensibilisation est ouvert à tous et à toutes. Il n'est pas nécessaire d'être membre de l'April. Et comme vous l'aurez bien compris, il n'est pas du tout nécessaire d'être technicien, informaticien, graphiste. On a parfois besoin simplement de personnes qui relisent, qui donnent des idées, qui pointent, qui peuvent relever des points de vigilance sur les ressources qu'on produit. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde et je vous invite donc, si vous êtes intéressé, à vous inscrire à la liste de diffusion dédiée. Vous trouverez bien sûr le lien sur la page qu'on a mis à disposition sur notre site april.org ou sur cause-commune.fm.
Et comme tu l'as dit, en fait, il n'y a pas besoin d'être membre de l'April pour contribuer à ce groupe de travail sensibilisation. Il suffit de s'inscrire sur la liste et de se présenter et de voir les travaux qui sont en cours.
Tout à fait, c'est un groupe de travail absolument libre, ouvert à tous et à toutes.
Alors, tu sur le groupe Sensibilisation, tu as exprimé notamment le projet donc, d'Expo Libre, qui est disponible donc, en français, en anglais, bientôt en espagnol, qui est utilisé par des structures. Donc, tu as cité notamment les bibliothèques de bibliothèques de Paris dans le cadre du festival NUMOC l'an dernier. Mais il y a aussi d'autres structures qui sont assez particulières dans le monde du logiciel libre, qui sont, alors on va employer pour une fois un acronyme, mais qu'on va décliner.
On va l'expliquer.
Voilà, GUL, G-U-2-L, donc pour groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les objectifs de ces GUL, de ces groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices, et leur mode de fonctionnement ?
Tout à fait. Donc, si on souhaite libérer son informatique grâce au logiciel libre, mais qu'on ne connaît pas, et donc on ne sait pas du tout comment s'y prendre, ça arrive au meilleur. Donc, le meilleur est de prendre contact avec un GUL. Donc, je répète, un groupe d'utilisateurs ou utilisatrices de logiciels libres. En effet, les GUL sont des associations, pour la plupart associations 1101, dont les membres mettent à disposition leur temps, leur expérience et leurs compétences à titre bénévole et gratuit pour accompagner, pour aider les non-initiés à découvrir et utiliser le logiciel libre. Et c'est aussi bien sûr un lieu d'échange et d'entraide aussi pour ceux qui, et celles qui connaissent déjà, donc les débutants, les débutantes et les confirmés. Les GUL peuvent proposer des permanences, c'est-à-dire des rendez-vous réguliers ouverts au public. Ils peuvent aussi organiser des événements ponctuels, comme par exemple des journées de découverte, des ateliers. Et ils peuvent bien sûr participer aussi à d'autres événements avec des stands et des conférences. Et seulement en Ile-de-France, on compte une vingtaine de groupes d'utilisateurs utilisatrices de logiciels libres actifs. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez libérer votre informatique, il y en a forcément un près de chez vous. Et vous pouvez repérer rapidement le GUL le plus proche de chez vous en vous rendant sur le site de l'agenda de libre dont on parlera plus tard.
Bah, on peut parler tout de suite si tu veux. Donc, l'agenda du libre, donc, c'est agendadulibre.org. Agenda du libre étant tout attaché. Donc, vu son nom, je suppose que ça annonce des événements autour du logiciel libre, mais visiblement, ça a aussi un annuaire de groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres.
Tout à fait, il a cette double fonction, double casquette. Donc, si vous voulez savoir s'il y a un événement autour du logiciel libre près de chez vous ou une association, un GUL, donc, près de chez vous, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur l'agenda du libre. Il y a un moteur de recherche qui vous permet de chercher par ville, par région. Et il y a même une vue géographique pour aller plus vite. Moi, personnellement, je préfère la vue géographique. Voilà. Donc
pour ceux qui sont en région parisienne, vous zoomez sur l'Île-de-France, vous avez trouvé un certain nombre de groupes. Donc, il y a, par exemple, à Paris, il y a Parinux, on va citer quelques noms. Dans l'Essonne, il y a l'INES. Avant, via le Libre Vent V1. Et bien sûr, si vous nous écoutez sur Internet et que vous n'êtes pas en région parisienne, l'agenda du Libre, vous trouverez également les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de votre région qui donc vont vous permettre de découvrir le logiciel libre, soit de manière vraiment premier pas, soit de manière avancée, si vous le souhaitez.
Tout à fait.
Alors, justement, l'agenda du Libre annonce un certain nombre d'événements, mais supposons aujourd'hui que quelqu'un nous écoute et souhaite découvrir le logiciel libre. Est-ce qu'il y a des événements récurrents, notamment en région Île-de-France, vu que nous sommes une radio sur la région Île-de-France, des événements récurrents sur lesquels les gens peuvent aller et découvrir le logiciel libre ?
Tout à fait. Donc, tu as cité tout à l'heure l'association Parinux, donc, qui est le groupe d'utilisateurs ou utilisatrices du logiciel libre à Paris. Et bien, Parinux co-organise avec d'autres associations le premier samedi du libre. Donc, vous l'aurez compris, c'est un rendez-vous régulier qui a lieu tous les samedis, les premiers samedis du mois. Et le lieu, c'est le carrefour numérique de la Cité des sciences et de l'industrie qui se trouve au parc de la Villette, donc dans le 19e arrondissement à Paris. Et donc, tous les premiers samedis du mois, l'après-midi de 14h à 18h, il y a des bénévoles donc, de plusieurs associations qui sont à votre disposition, vraiment pour vous aider et pour vous approcher au logiciel libre. Ils sont toujours proposés une install party. Donc, je vais vous expliquer, c'est l'installation gratuite de systèmes de distribution libre tels que Debian, Ubuntu, Mageia, etc. Donc, vous pouvez vraiment aller physiquement avec votre ordinateur et demander donc de l'aide pour installer un système d'exploitation libre. Ils sont proposés aussi des ateliers, par exemple la Wiki Permanence pour contribuer à l'encyclopédie que vous connaissez bien sûr, Wikipédia, donc, qui est une encyclopédie collaborative et libre. Et il peut y avoir aussi ponctuellement des conférences plus grand public ou plus techniques. Donc le prochain premier samedi du libre aura lieu, bien évidemment, le 2 juin. Et pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site dédié. Voilà, donc...
Donc on retrouve ces informations sur l'agenda du livre. Alors là, tu as parlé d'événements sur de découvertes, on va dire. Il y a aussi des événements où on peut... Tout là, on a parlé dans la... Flo et Tom ont parlé dans leur vidéo de contribution. Est-ce que pour finir cette partie, tu peux nous parler des ateliers de contribution qui ont lieu, donc, je crois, tous les jeudis soirs à Paris?
Je confirme. Donc tous les jeudis à la Fondation pour le Progrès de l'Homme, donc, qui est dans le 11e arrondissement à Paris, vous pouvez contribuer, vous pouvez apporter votre pierre à des projets libres. Donc je tiens à préciser, il ne s'agit pas d'une permanence ou d'une install party. Hein, si les personnes qui se rendent à ce rendez-vous choisissent de contribuer au projet de leur choix. Il y a plusieurs groupes de travail qui participent régulièrement à ce rendez-vous et la liste non exhaustive est disponible sur l'agenda du Libre et aussi sur le site de l'association Parinux qui est à l'origine de cette initiative. C'est important de savoir qu'il n'est, à nouveau, il n'est pas, j'insiste sur ce point, il n'est vraiment pas nécessaire d'être informaticien ou informaticienne pour participer. Vous pouvez vous rendre à ces rendez-vous pour proposer de nouveaux outils de sensibilisation, pour faire une transcription d'une vidéo, pour faire une relecture. Il y a plein d'activités voilà, qui sont vraiment accessibles à tous et à toutes.
Merci Isabella. On va juste finir donc, parce que le temps avance, par une autre forme de rencontre qui est là beaucoup plus informelle, qui sont les apéros. Donc l'April organise un apéro à son local donc une fois par mois. Donc la date pour l'instant n'est pas encore fixée du prochain, de celui de juin, mais quand la mission sera diffusée, il suffira d'aller sur le site de l'April, ce sera annoncé. Et Parinux organise, je crois, c'est tous les 15 du mois, ce qu'ils appellent l'apéro parisien du logiciel libre. Donc est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est ?
Tout à fait. Donc, les libristes ne passent pas tout leur temps devant l'ordi. Ils aiment bien aussi échanger avec les membres de leur association autour d'un verre. Et c'est vraiment le but de ces apéros. D'un côté, ça permet de faire plus ample connaissance entre membres d'une association, mais c'est aussi le point de contact idéal pour accueillir de nouvelles personnes qui sont intéressées par le monde du libre. Et pour leur présenter l'association en question et ses activités. Et donc, tu rappelais que l'association Parinux propose un apéro tous les 15 du mois. Donc, le prochain rendez-vous sera le vendredi 15 juin. Attention, parce que le lieu change à chaque fois. Donc, la date ne change pas, c'est toujours le 15, mais le lieu change. Donc, pour connaître l'adresse, il faut consulter le site de Parinux ou bien sûr celui de l'agenda du Libre. Et comme tu disais, celui de l'April, il faut consulter pareil l'agenda du Libre ou alors se rendre directement sur april.org.
Tout à fait. Et on va finir par rappeler simplement que ces apéros sont ouverts à toute personne. Tout pas forcément membre des associations, au contraire, nous accueillons tout le monde et nous sommes ravis. Donc nous allons maintenant bientôt, nous allons faire une nouvelle pause musicale avec un morceau donc, du groupe Dichton, c'est Voltaire's Intro.
Cause commune, 93.1, la voix des possibles. We'll be right back.
Cause commune, cause-commune.fm. Partage ta radio.
Vous venez d'entendre Voltaire's Intro par Dichton. Vous retrouverez les informations concernant ce morceau donc sur le site de l'April. Vous êtes toujours sur Radio Cause Commune, cause-commune.fm, et vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et réagir avec l'April. Donc maintenant, nous allons changer de sujet. Nous allons revenir à la priorité au logiciel libre versus contrat open bar Microsoft Défense. Ça va être le gros sujet du dossier du jour. Donc pour cela, notamment, je vais passer rapidement la parole à Étienne Gonu, et nous avons en ligne Marc Resc, qui est rédacteur en chef de Next Impact. Donc, Étienne, est-ce que tu peux nous faire un petit point de la situation, s'il te plaît ?
Déjà, je pense que c'est important aussi de se remettre dans le contexte. Donc, comme on disait, au cœur de l'action de l'April, il y a cette idée d'une priorité au logiciel libre dans une considération collective. Et un des aspects, un des enjeux qui est assez central sur cette question et qui est prépondérant dans ce dossier Open Bar, c'est la question de la souveraineté informatique. Donc, ça, c'est vrai que c'est un terme qui revient de manière récurrente. Qui mérite peut-être qu'on s'y attarde un instant. Qu'est-ce qu'on entend par souveraineté ? Enfin, je pense que le premier aspect qui ressort, c'est cette idée finalement de maîtrise, hein, de certains contrôles donc, sur son informatique. Je pense qu'une bonne manière de réfléchir la souveraineté, c'est par analogie par rapport à la souveraineté sur un territoire. Comment est-ce qu'on va être souverainement, avoir une maîtrise souveraine sur un territoire ? Déjà, ça suppose d'en avoir connaissance, hein, connaissance des limites, des richesses de ce territoire, des règles qui vont venir s'y appliquer. Et puis, avec cette connaissance, d'être en mesure aussi d'agir sur les règles qui s'y appliquent dans la mesure du possible. Bien sûr, hein, y a des règles qui sont... pas dans notre contrôle, mais d'autres sur lesquelles on peut pouvoir agir. Donc c'est dans cet équilibre-là que réside la souveraineté. Donc en termes informatiques, c'est ce que vont permettre les quatre libertés du logiciel libre, bien sûr également l'usage de formats ouverts, c'est cette maîtrise sur son informatique, sa capacité à déjà avoir connaissance des règles et puis pouvoir agir et créer les règles, maîtriser donc l'infrastructure logicielle. Et ce qui fait qu'en fait c'est vraiment une question éminemment politique, et c'est donc vraiment ça qu'on défend dans cette priorité logicielle, dans une considération collective. On peut aussi se poser la question déjà où est-ce qu'on en est en France sur cette question-là, en termes de souveraineté informatique par rapport au logiciel libre notamment. Alors rapidement, on peut signer, donc il y a des signes positifs qui se mettent en place, bien qu'ils soient encore insuffisants, mais on avance, hein. Pas à pas. On peut citer notamment en 2012, il y a une circulaire du Premier ministre Jean-Marc Ayrault sur le bon usage du logiciel libre au sein de l'État. Plus récemment, donc, il y a eu la loi République numérique dont vous avez peut-être entendu parler en 2016. Donc dans cette loi, d'un côté, les codes sources des logiciels produits par l'administration sont considérés, le fait qu'ils soient accessibles, qu'ils doivent être accessibles au public a été acté. Et par ailleurs, alors on considère que c'est encore insuffisant, mais à nouveau ça va dans le bon sens, les administrations sont à présent tenues d'encourager l'utilisation de logiciels libres.
Donc les administrations donc, doivent encourager, mais c'est quelque chose qui n'est pas normatif, c'est-à-dire qui n'est pas très fort au terme de loi, et effectivement c'est... inférieure effectivement à cette priorité au logiciel libre qui consiste à dire à chaque choix informatique on va donner la priorité au logiciel libre sauf s'il y a vraiment des raisons impérieuses qui font qu'on choisit autre chose. L'encouragement c'est quelque chose de pas suffisamment engageant, on va dire, c'est ça?
Oui, tout à fait, ouais.
Ok.
Tout à fait, parce qu'une loi, si finalement elle n'a pas cet aspect normatif, si elle n'impose rien, elle manque, comme on dit souvent, elle manque dedans finalement. Donc là, le signal politique est inférieur à ce qu'on défendait, ce que bien sûr nous on défendait, on discutait avec des parlementaires, et je pense qu'on y reviendra peut-être dans une prochaine émission sur notre action de ce point de vue-là. Je pense qu'on peut aussi citer un exemple qu'on prend souvent, c'est celui de la gendarmerie nationale, et ça nous amène progressivement vers le sujet de l'open bar. Donc la gendarmerie nationale qui est souvent citée en exemple. Pour son usage du logiciel libre. Alors, si ma mémoire est bonne, elle a commencé sa migration en 2006. Alors, elle est citée en exemple parce que c'est un grand succès, notamment dans la manière dont elle a mené cette migration, commençant par la bureautique, et maintenant, elle a son propre système d'exploitation libre. Donc, un très bel exemple de réussite. Alors, si maintenant, on s'attarde... Ah.
Juste sur la gendarmerie, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la gendarmerie, donc, pour des raisons à la fois de coût, de réduction de coûts, mais aussi de souveraineté informatique, comme tu l'expliquais jusqu'avant, dans le début des années 2000, effectivement, a décidé finalement de mettre en œuvre cette priorité au logiciel libre et donc de migrer son parc informatique vers le logiciel libre, et avec un grand succès, parce qu'aujourd'hui encore, ils utilisent du logiciel libre. Il y a eu de nombreuses conférences faites par des gens de la gendarmerie pour expliquer les gains qu'ils ont eus en termes d'efficacité, de souveraineté et d'achat. Et effectivement, on peut se dire qu'à cette époque, dans les années 2000, il y avait aussi des directions informatiques au niveau de l'État interministériel qui poussaient beaucoup vers le logiciel libre. Donc, il y avait une dynamique très forte. Et ce qui est bizarre, effectivement, c'est ce contrat Open Bar que tu vas nous détailler un petit peu, c'est que finalement, le ministère de la Défense a fait carrément autre chose.
Oui, tout à fait. Alors, tu parlais d'un contexte positif. C'est vrai que dans les milieux des années 2000, on voit qu'il y avait notamment une directive à ce niveau, au niveau de la Direction générale des systèmes d'information, qui alors...
L'armée.
De l'armée, tout à fait. Qui avait vocation à assurer donc, la souveraineté informatique de l'armée et qui faisait la part belle au format ouvert et au logiciel libre. On peut penser également, alors ça c'est Next Impact qui l'a révélé en 2005, qu'il y avait un rapport interne à l'armée qui préconisait la migration vers le logiciel libre, accord qui aurait été approuvé par la ministre de la Défense de l'époque, Michèle Alumari. On peut aussi penser au Premier ministre Jean-Pierre Raffarin qui en 2004 soutenait la migration vers le logiciel libre là, dans des considérations budgétaires. Donc il y avait vraiment un environnement très favorable au logiciel libre. Et quand soudain, en 2008, signature de ce contrat Open Bar, sans publicité préalable ni mise en concurrence.
Alors, avant d'entrer dans le détail de ce contrat Open Bar, donc qu'on comprenne bien, effectivement, dans les années 2000, on va dire, en gros, avant 2007, tu n'oses pas le dire, mais c'est avant 2007, il y a des signes très forts en faveur du logiciel libre, tant du côté de la gendarmerie qui a lancé un plan de migration, que du ministère de la Défense qui, effectivement, avec une directive, encourage à l'usage du logiciel libre. Il y a des plans de migration qui sont annoncés autour, à l'époque, de OpenOffice, qui est une suite bureautique libre. Et puis, effectivement, passe 2007 et 2008-2009, il y a ce contrat Open Bar, tout d'un coup, qui arrive, alors sans qu'on soit vraiment informé. Et c'est là où j'ai envie de demander à Marc Reiss, donc, qui est rédacteur en chef de Next Impact. Parce que finalement, ce contrat Open Bar, sans Next Impact, sans le travail de Marc, nous n'aurions peut-être pas entendu parler, parce qu'en fait, c'est un article de Marc Reiss de 2008 qui révèle, ou 2009, je ne sais plus, mais tu vas nous préciser, qui révèle l'existence de ce contrat. Marc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, tout à fait. Donc, cet article, qui prenait que quelques lignes, date du 11 avril 2008, et même de... Il avait été posté à 15h36. J'ai vérifié, hein, j'ai pas une mémoire infaillible. Et à l'époque, j'avais eu vent, par des sources diverses et variées, que Microsoft avait effectivement offert ce qu'on appelait déjà une offre open bar à deux ministères régaliens, en l'occurrence la Défense notamment. Et un contrat open bar, c'est quoi ? Eh bien, en échange d'une somme X, le ministère, ou en tout cas l'entité administrative, a la possibilité de puiser dans les réserves, dans le stock logiciel de l'éditeur américain, pour nourrir et remplir ces disques durs sur des dizaines de milliers de machines, voire plus. J'étais un petit peu ennuyé à l'époque parce que j'avais aucune autre information solide sur la volumétrie, sur l'historique, l'approche concrète de ce dispositif. Pourquoi ? Eh bien, la raison est simple, c'est qu'il n'y a pas eu de marché public. Un marché public, c'est quoi ? C'est lorsque vous avez une entité administrative, en l'occurrence ici un ministère, qui est désireux de s'équiper ici en solution logicielle. Il a normalement une voie royale, c'est celle des marchés publics, où il va faire une offre en disant « j'ai besoin de ça, 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 ça ». Et je lance une bouteille à la mer dans le secteur privé, à charge pour celui-ci de répondre favorablement à mes besoins. Et ensuite, il y a un tri qui est effectué en toute transparence. Et le meilleur en termes de prix, mais aussi évidemment en termes de qualité, l'emporte. Donc c'est une démarche qui est, j'allais dire, classique, qui est encadrée par un code, c'est le code des marchés publics. Donc il n'y a pas de souci. Mais là, il y a un petit souci. En termes de transparence, c'est que c'est une offre, j'allais dire, de degré à gré entre deux entités, à gauche Microsoft et puis à droite le ministère de la Défense, sur lesquelles on n'a eu aucune publicité. Aucune publicité, on n'a eu aucune information, aucun détail sur ce qui était attendu. Et du seul fait de passer par cet accord de main à la main, eh bien, ça disqualifie de facto, les autres prestataires qui auraient pu proposer des solutions concurrentes, peut-être moins bien, peut-être équivalentes, peut-être mieux, peu importe, j'allais dire, et de la sorte, on n'a aucune information, en tout cas, j'avais pas beaucoup d'informations à l'époque, sur ce qu'était exactement le contrat Microsoft Open Bar. Et c'est à partir de cet article-là, et également d'autres articles, je pense, je sais pas moi, je pense aux différents travaux de Jean-Marc Manac, mon confrère, du Canard Enchaîné, de Marianne, etc., de Cash Investigation. Donc c'est à partir de cette petite graine qu'automatiquement, enfin qu'après coup, on a eu d'autres informations qui sont arrivées au fil de l'eau. Et ce n'est que très tardivement que le politique s'en est emparé, mais il s'en est emparé, c'est à souligner, suite à différentes questions parlementaires, différentes demandes qui ont été effectuées. Donc c'est vraiment un sujet qui traîne depuis de nombreuses années, sur lequel la religion principale, c'est celle de l'opacité, et où on apprend à chaque fois des vertes et des pas mûres à chaque article.
Merci Marc. On va revenir sur un certain nombre de choses que tu as évoquées, notamment sur le politique après. Mais en tout cas, effectivement, tu présentes bien le contexte. Et par rapport donc au marché public, donc tu es bien présenté, on a bien compris en fait que ça a été négocié directement avec Microsoft sans informer les possibles concurrents, et donc évidemment les concurrents logiciels libres, hein, les gens qui par exemple pouvaient faire une offre de service à partir de LibreOffice par exemple. Alors à l'époque, et là je vais demander à Étienne, il y a eu au niveau du ministère de la Défense, il y a eu à la fois un groupe d'experts qui s'est penché sur le sujet, mais d'abord côté marché public, il y a la commission des marchés publics, il y avait un rapporteur, monsieur Georges Rosen. Next Impact a publié quelques années plus tard le rapport de ce rapporteur, le contenu de ce rapport qui était très très critique contre le projet de signature du contrat. Georges Rosen s'est aussi exprimé dans Marianne. Donc Étienne, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle était la position donc, du rapporteur de la Commission des marchés publics de l'État de l'époque par rapport à ce contrat Open Bar ?
Effectivement, un rapport où il était très, très critique, notamment sur la procédure très particulière qui était utilisée, hein, qui permet d'éviter toute mise en concurrence. Et il pointait effectivement du doigt, comme le disait Marc, le fait que, particulièrement sur la bureautique, il y a toute une gamme d'autres produits que ceux de Microsoft. Et donc, mettait en cause le recours à cette procédure particulière. D'ailleurs, je pense qu'il est intéressant de noter que, je crois que c'est le rapport des experts militaires qui le soulignait, la bureautique représente quand même 90% du périmètre de cet accord. Donc on n'est quand même pas sur un aspect marginal. Alors ce qu'il en pense, au-delà même du rapport, et il l'a dit de manière assez explicite, ça il était interviewé dans le cadre d'une enquête donc de Marianne, publiée en mai 2017. Je vais citer ses propos, hein, je pense que ça laisse peu de place à l'imagination. Il dit concrètement qu'il n'y avait aucune raison de favoriser Microsoft. Il n'a pas le monopole du traitement de texte. On était dans un délit de favoritisme, donc l'accusation est quand même assez grave. Il a remis en cause donc le recours à cette procédure particulière. Il continue ainsi, c'était déjà illégal à l'époque. Je ne vois pas pourquoi cela le serait moins aujourd'hui. Effectivement, le contrat a été renouvelé en 2013 puis en 2017, à chaque fois pour des périodes de 4 ans. Et d'ailleurs, je pense qu'on y reviendra parce que c'est intéressant cette périodicité. Et il conclut ainsi, on m'a demandé de valider la décision politique émanant d'un cabinet. J'ai refusé, mais on ne m'a pas écouté.
Alors effectivement, c'est des propos très forts, ça parle d'illégalité, de pénal, et ce sont les propos d'un rapporteur de la Commission des marchés publics de l'État, qui, si je me souviens bien dans son rapport, précise bien qu'il n'est pas militant du logiciel libre et qui s'exprime vraiment d'un point de vue juridique. Donc ça, c'est le côté marché public de l'État, la Commission. Finalement, le rapporteur dit, il faut pas signer ce contrat. Pourtant, la Commission va valider le principe de la signature de ce contrat. Et de l'autre côté, il y a le ministère de la Défense qui, donc, dans une procédure qu'on pourrait trouver logique, décide de nommer un groupe d'experts pour étudier la proposition de Microsoft. Parce qu'il faut bien comprendre que la proposition vient de Microsoft initialement. Et ce groupe d'experts donc, va travailler, va rendre un rapport, va étudier différents scénarios. Et quelles sont les conclusions de ce groupe d'experts et est-ce que ces conclusions ont été suivies des faits ?
Effectivement, on pourrait se dire, alors peut-être qu'ils ont un peu joué à la marge des règles de la commande publique, mais pour d'impérieuses considérations d'intérêt général. Hein, ils étaient peut-être dans cette optique-là. Et donc, effectivement, assez logiquement, ils ont mené une enquête, une analyse, donc confiée à un groupe d'experts militaires, dont je pense qu'on pourrait difficilement remettre en cause la probité. Donc, ils étudiaient différents scénarios, 4 au total, dont ce fameux accord Open Bar. dont voici les conclusions que je vais donc citer. Il considère que l'offre Microsoft est la solution qui comporte le plus de risques rédhibitoires. Ça commence bien. Coût du renouvellement du contrat à la technologie identique, coût de sortie de la technologie, adhérence à des formats ou architectures propriétaires, des risques vis-à-vis du juridique, des risques juridiques vis-à-vis du droit européen, perte de souveraineté nationale, addiction aux technologies Microsoft, risque de porte dérobée, affaiblissement de l'industrie française ou européenne du logiciel. Donc on est quand même sur des risques franchement sérieux, qui laissent peu de doutes finalement aussi sur le niveau de ces risques dans la formulation. À nouveau, on a une citation intéressante. Hein, pour le coup, c'était le président de ce comité d'experts, interviewé dans le cadre de l'émission Cash Investigation, diffusée en 2016. Et voici ce qu'il précise, que le seul scénario qui était déconseillé a été celui qui, in fine, a été retenu. Oui, on peut considérer que les recommandations n'ont pas été suivies. Je pense que c'est assez explicite.
Tu fais référence à une émission qui a été diffusée en 2016 sur France 2, donc Cash Investigation, qui est disponible sur Internet. Hein. Vous irez sur la page consacrée à l'émission sur april.org. Nous vous donnerons un lien. Il y a aussi une autre émission qui s'appelle le 20-20h, qui était sur France 5, qui présente aussi un certain nombre de choses. Donc là, on voit clairement en fait que la citation initiale de Georges Rosen, donc le rapporteur de la Commission des marchés publics de l'État, qui disait « On m'a demandé de valider la décision d'un cabinet, ce que j'ai refusé. J'ai l'impression, à t'écouter, écouter Marc, que finalement, côté ministère de la Défense, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le ministère de la Défense avait décidé de signer avec Microsoft, et ils pensaient que le groupe d'experts allait valider ce principe-là. Et le groupe d'experts leur dit ben finalement, l'open bar, la solution retenue, n'était absolument pas à choisir, même s'il faut bien préciser que le groupe d'experts ne rejetait pas totalement le recours aux solutions Microsoft. Marc Ress, tu suis ces dossiers-là depuis assez longtemps. Ce n'est pas la première fois qu'on peut dire que sur un dossier, il semblerait qu'une décision soit prise à un niveau ministériel, sans tenir compte des réalités à la fois technologiques et juridiques. Et donc dans ce dossier-là, c'est carrément au mépris visiblement des règles de marché public de transparence qui sont effectivement fondamentales. Et puis au mépris finalement du règle de l'avis des experts qui, en toute indépendance, avaient jugé qu'il ne fallait pas signer ce contrat open bar.
Oui, et d'ailleurs, je reviens à l'introduction qui était parfaite d'Étienne, qui montrait justement, qui mettait en avant le contexte des années 2000, où il y avait une attention qui était extrêmement poussée pour le logiciel libre. Les documents qui ont suinté par la suite sont extrêmement nombreux. Je pense en particulier à un document d'octobre 2005 qui fait état d'un rapport sur les logiciels libres, sur les logiciels pardon, au ministère de la Défense, signé du contrôleur général des armées, Jean Ténéroni, donc c'est pas n'importe qui, et qui avait été adressé au secrétaire du directoire des SIC, des systèmes d'information et de communication. Et dans ce document, on apprenait par exemple que Michèle Alliot-Marty, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'à l'époque elle était ministre de la Défense, avait approuvé ses conclusions, à savoir une migration vers le libre, sous réserve évidemment d'études complémentaires venant, j'allais dire, blinder, solidifier ce choix. De la même façon, le contrat qui allait être signé avec Microsoft, quand je vais revenir là-dessus, était l'objet de nombreuses critiques. Il était dénoncé notamment des clauses exorbitantes de droit commun, avec une possibilité de résiliation sans condition. Enfin, c'est des mesures qui, normalement, enfin, la politesse de base dans un marché public conduit à éviter ce genre de dispositif. Et d'ailleurs, pour revenir là, cette fois-ci sur ce que je disais tout à l'heure, c'est à savoir que à partir de la graine de 2008, ce petit article que j'avais posté, où on a appris par la suite, notamment au fil de questions parlementaires et de réponses parlementaires, puisque je rappelle simplement pour ceux qui ne sont pas au fait de ce genre de choses, c'est que n'importe quel député ou sénateur a la possibilité de questionner le gouvernement pour l'interroger sur ses choix, sur un historique ou sur un avenir. Et en l'occurrence, le ministre de la Défense a été interrogé voilà peu, et il a expliqué que le contrat Microsoft, et c'est ce qu'on a appris aussi par la suite, il remontait bien longtemps. Il remontait à mars 2001, voire juin 2003, Il y a eu deux contrats qui avaient été signés avec la Défense, un contrat global et un contrat select. Et là encore, il s'agissait de proposer à ce ministère régalien des tarifs avantageux. Donc on est arrivé quand même à un contexte vraiment curieux où d'un côté on a le ministère de la Défense qui avait préparé le terrain, enfin en tout cas des personnes au ministère de la Défense qui avaient préparé un terrain contractuel avec l'éditeur américain, dont les ventes remontent dans les finances irlandaises. Et de l'autre, on avait une pluie comme ça de rapports, de personnalités, j'allais dire qualifiées, qui ont dégommé ces dispositifs pour expliquer que finalement le choix en question était tout sauf judicieux.
Alors,
il y a une pièce que je n'ai pas encore, c'est qu'est-ce qui s'est passé au plus haut, quel a été l'élément déclencheur qui nous a fait passer de noir à blanc ou de blanc à noir, de gauche à droite ou autre. Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé d'un contexte de rejet plus ou moins total à une adoption aveugle?
Alors effectivement, merci pour cette mise en perspective, pour ce questionnement. C'est vrai qu'on peut se demander ce qui s'est passé en 2007 en France. Bon, si on réfléchit bien, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Il y a peut-être eu une élection présidentielle qui est passée par là, donc peut-être qu'on va y revenir. Mais avant de faire une petite pause musicale, je voulais juste revenir sur cette durée de 4 ans et sur ce contexte. Parce que finalement, on peut penser que c'est la Défense qui pilote tout ça initialement. Mais en fait, dans un objectif de rationalisation des coûts, mais nous, on pense plutôt qu'en fait, Microsoft, craignant que la gendarmerie nationale, la démarche de la gendarmerie se répande, hein, donc on rappelle que la gendarmerie nationale, à l'époque, était en pleine migration vers le logiciel libre, s'est dit, bon, on va utiliser la volonté de rationalisation des coûts du ministère de la Défense pour proposer un open bar gagnant pour Microsoft. C'est-à-dire que en utilisant leur prétendu monopole sur le poste de travail et la bureautique, alors que je vous rappelle qu'il existe des suites bureautiques libres déjà à l'époque, et en l'étendant à presque tout son catalogue, et avec une location limitée dans le temps mais renouvelable, donc limitée à 4 ans, ça rend en fait de facto prisonnier le ministère de la Défense, parce que le ministère, s'il n'anticipe pas à temps, est obligé, contraint, de renouveler le contrat. Et donc Microsoft exclut de facto tout concurrent. Et d'ailleurs, dans les derniers documents qu'on a pu consulter, le ministère de la Défense déjà acte le fait qu'en 2021, ils vont renouveler le contrat et peut-être la fois suivante. Donc très clairement, cette démarche de 4 ans est un piège pour le ministère de la Défense, donc qui a malheureusement choisi, ou plutôt été contraint peut-être par des décisions politiques venant de très haut, en 2008, effectivement, de se donner pieds et poings liés à Microsoft. Mais nous verrons en fait qu'il est quand même possible d'agir, parce que depuis, beaucoup de choses ont été publiées, de la transparence a été faite. Donc nous reviendrons notamment sur le rôle des politiques, sur le rôle de l'April, sur le rôle des journalistes. Mais en attendant, nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Vals Esperanza de Daniel Bautista.
Cause commune, 93.1, la voix des possibles.
Cause commune, cause-commune.fm.
Vous venez d'entendre Vals Esperanza de Daniel Bautista et bien entendu vous retrouverez les informations sur ce morceau de musique sur le site de l'April. Donc vous êtes toujours sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur internet sur cause-commune.fm et vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April. Donc le dossier que nous discutons actuellement c'est l'Open Bar Microsoft Défense. Donc juste avant la pause, on parlait effectivement de cet aspect captif de ce contrat, de manque de transparence. Donc suite à l'article de Marc Ress en 2008 qui révèle ce contrat, nous, l'April, on a commencé évidemment à s'intéresser à ça pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et on a notamment utilisé alors, deux actions, on va les aborder à la suite. D'abord l'accès à des documents administratifs et ensuite évidemment la sensibilisation auprès des élus. Donc déjà Marc, toi qui es un spécialiste en fait, de cette demande de communication d'accès de documents administratifs, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche et si tout le monde peut utiliser cette procédure ?
Oui, tout à fait. Les demandes CADA, c'est ce qu'on appelle les demandes CADA dans le jargon.
Qu'est-ce que ça veut dire CADA ?
Les demandes CADA, ce sont des demandes qui sont exercées auprès d'une commission administrative des documents administratifs, donc la CADA, et qui visent à contraindre, ou en tout cas à inviter solidement une entité administrative à fournir des pièces qu'elle n'a pas publiées. Donc, normalement, la publicité, c'est un peu la règle dans une démocratie éclairée. Malheureusement, on a beaucoup de collectivités, d'administrations et de ministères qui n'ont pas encore qui n'ont pas encore réalisé cette nécessaire transparence dans une démocratie éclairée et qui, en 2018, après Jésus-Christ, résistent toujours à ce nécessaire besoin de transparence. Donc, j'explique. Lorsque une administration ne fournit pas un document, vous avez la possibilité de contacter cette administration pour lui demander poliment. Alors cette demande peut se faire par lettre recommandée, simple, voire même par email. Et au bout d'un mois, si elle refuse ou alors si elle conserve son silence, ce qui équivaut à un refus implicite, l'étape numéro 2 se poursuit devant une commission administrative qui est la CADA. Et devant cette CADA, cette commission d'accès aux documents administratifs, vous allez faire un petit historique en disant, voilà, telle date, j'ai demandé tel document et l'administration a refusé, ou en tout cas a gardé son silence. Et à ce moment-là, la commission d'accès aux documents administratifs va ausculter, va contacter, en l'occurrence ici, le ministère de la Défense, pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Et ensuite, elle va donner un avis. Alors, c'est un avis qui est simple. C'est-à-dire qu'il n'a pas de force juridique, en ce sens que ce n'est pas une obligation pour l'administration que de le suivre. Mais par contre, un justiciable se voit reconnaître un droit d'accès à un document administratif, conservé jalousement par une administration, a la possibilité, en étape numéro 3, de saisir les tribunaux administratifs, voire même le Conseil d'État, suivant le degré, en l'occurrence ici, le degré de la collectivité administrative qui est réticente, pour cette fois-ci obtenir une obligation de communication au besoin sous astreinte. Et c'est une technique qui est ouverte à tout le monde, qui peut être adressé et qui peut viser n'importe quelle administration, une collectivité locale, un maire, un conseil général, je ne sais pas moi, et en l'occurrence un ministère aussi, ici le ministère de la Défense. Moi j'en ai fait beaucoup de procédures CADA, notamment à l'encontre d'autorités administratives comme la ADOPI, la CNIL, le ministère de la Culture aussi, et à chaque fois j'ai obtenu gain de cause.
Merci pour cette présentation effectivement de la procédure de demande d'accès, de communication de documents administratifs, donc qui est ouvert à tout le monde. Par exemple, si vous avez à être intéressé par un document produit par votre mairie dans le cadre, je ne sais pas, moi, d'un projet municipal, vous pouvez effectivement solliciter la mairie. Et si celle-ci ne vous répond pas ou refuse la communication, vous pouvez saisir la CADA. Donc sur Next Impact, il y a d'ailleurs un article qui explique comment procéder. Donc nous mettrons le lien évidemment sur le site de l'April pour expliquer aux gens comment utiliser cette technique de demande de communication administrative. Donc à l'April, on l'a beaucoup utilisé. Juste en quelques mots, Étienne, est-ce que tu peux nous faire un petit peu un retour sur les effets de ces demandes de communication de documents administratifs ?
Non, c'est vrai que c'est un outil indispensable hein, pour notre action. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que quand on réussit à obtenir des documents, en général, on va trouver de nouvelles informations qui vont pouvoir initier de nouvelles demandes. Donc finalement, ça nourrit notre action tout au long de ces années de lutte contre cet accord. Ça nous permet aussi, dans notre relation, ce qu'on essaie de bâtir avec certains parlementaires, des relations de confiance, par rapport aux informations qu'on arrive à découvrir parfois dans ces documents, ça permet aussi d'initier, comme Marc en parlait plus tôt, des questions écrites ou orales, généralement écrites. Donc, par exemple, on a une sénatrice avec qui on discute assez régulièrement, Joëlle Garriaud-Mellam, et qui a initié plusieurs questions écrites. Donc, si on voit une information, on la contacte, on lui propose avec elle si elle serait intéressée à poser cette question écrite.
Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une question écrite ? Parce que à qui est-elle adressée ?
Alors, une question écrite, comme Marc le disait, c'est n'importe quel parlementaire, sénateur ou député, sénateur, sénatrice ou député, peut poser une question, ça fait partie de ses prérogatives parlementaires, par voie orale ou par voie écrite, au ministère, enfin au ministre concerné par le document. Donc, dans le cadre de l'open bar, au ministre ou à la ministre des armées. D'ailleurs, c'est pour faire écho à toute l'opacité qui entoure ce contrat, il est intéressant de noter que c'est par une réponse à une question écrite en 2007 qu'on a appris que le contrat avait été effectivement renouvelé. Donc, ce qui montre quand même toute l'opacité qui règne autour de ça et l'importance de ces outils. D'abord, des demandes d'accès aux documents administratifs et puis de l'outil parlementaire que sont les questions écrites ou orales.
Alors, d'ailleurs, on va bientôt écouter l'interview de la sénatrice Joëlle Garriaud-Mellam. Il faut savoir quand même que c'est quelqu'un qui, lors du projet de loi République numérique en 2016, dont tu as parlé en début d'émission, elle avait déposé des amendements en faveur d'une priorité au logiciel libre. Donc, c'est quelqu'un qui est sensibilisé sur ces questions et donc qui, finalement, continue son travail quelque part en faveur d'une informatique libre au service de toutes et de tous. Et donc, effectivement, ces questions écrites permettent d'avoir un certain nombre d'informations. Les documents qu'on reçoit via les demandes dites CADA, des fois, il y a des informations utiles. On apprend notamment dans le rapport dernier qu'on a reçu que le ministère de la Défense a déjà quasiment acté le renouvellement prochain. Et des fois, c'est un peu plus difficile à lire parce que des fois, c'est totalement caviardé avec du marqueur noir. Je me souviens qu'un rapport avait été caviardé à 95%, je crois. Mais ce qui était marrant, c'est que les personnes qui avaient fait ce caviardage n'avaient pas caviardé le sommaire. Et en fait, simplement en consultant ce sommaire, on avait une idée en fait, des conclusions de ce rapport. Donc, c'était des fois, les gens ne font pas forcément très bien leur travail.
Pour revenir à ce que disait Étienne, sur l'opportunité de poser une question écrite ou orale à un ministère, il faut aussi revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire que finalement, ce sont les députés et sénateurs qui, à l'occasion de la loi de finances, votent un budget qui va permettre ensuite au ministère de réaliser des choix. Mais donc il y a un rapport d'autorité, même s'il y a une séparation des pouvoirs, ce sont les parlementaires qui votent le budget et le gouvernement qui va ensuite allouer les sommes d'argent public ici ou là. Et ces choix budgétaires, ces choix effectifs doivent contraindre aussi quelque part la personne qui va exécuter ce budget public à rendre des comptes, puisque ça reste de l'argent public, c'est de l'argent public qui est collecté sur l'impôt. Donc c'est une logique de transparence et de saine démocratie que d'avoir un contrôle sur l'affectation des sommes affectées ici ou là.
Tout à fait, c'est très intéressant ce que je dis, notamment en termes d'action, c'est-à-dire qu'il y a de l'enjeu de sensibiliser déjà les parlementaires, et d'ailleurs il n'y a pas que l'April, n'importe qui peut sensibiliser son parlementaire à ces questions-là, parce que, comme tu dis, au cœur de l'action des parlementaires, il y a ce contrôle aussi des actions du gouvernement, que ce soit notamment par la voie du projet de loi de finances, et c'est en sensibilisant, en créant ce rapport de force et en armant les parlementaires sur ce sujet qu'on va pouvoir aussi agir de manière à faire de la lumière sur ce contrat.
Alors justement, faire la lumière sur son contrat, c'est un peu tout l'enjeu du travail de la presse, donc notamment de Next Impact, de l'April. Et là-dessus, effectivement, suite à nos échanges avec la sénatrice Joëlle Garriaud-Mellam, celle-ci a déposé une proposition de résolution visant à créer une commission d'enquête parlementaire sur ce contrat, qui a été déposée donc fin 2016. Il y a quelques semaines, Olivier Grieco et Étienne Gonu donc, ont été interviewés, la sénatrice. Donc nous allons écouter une interview, je crois qu'elle fait 7-8 minutes, de la sénatrice, qui va nous expliquer pourquoi elle a déposé cette proposition de résolution de création de commission d'enquête et où elle en est.
Donc, bonjour madame la sénatrice.
merci de nous recevoir voilà, pour discuter de l'accord entre Microsoft et, le ministère de la Défense. Donc, ils ont un accord global de licence depuis 2008. Alors, vous aviez déposé en 2014 de mémoire une question écrite au ministre de la Défense pour en savoir plus, j'imagine, sur cet accord. Donc, peut-être que vous pouvez nous dire déjà comment vous avez entendu parler de cet accord, justement, et ce qui vous a incité à poser cette question écrite.
Ça m'intéresse, comme toute bonne citoyenne, en principe, et en tant que parlementaire aussi, évidemment. Et c'est vrai que je me suis posé un certain nombre de questions. J'ai lu un certain nombre d'articles qui n'ont fait qu'augmenter mon inquiétude sur ce fameux contrat open bar. Parce que je suis les questions de défense, puisque je suis membre du bureau de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Donc je suis évidemment très sensibilisée sur ces questions de défense, de sécurité, de préservation de l'information, du renseignement. Et j'estimais qu'avoir un contrat avec Microsoft, dont nous connaissons les failles, des failles qui ont été prouvées, des envois de données qui n'auraient pas dû avoir lieu et qui ont été récupérées par les États-Unis, c'est quand même extrêmement gênant, d'autant plus qu'en France, nous souhaitons avoir une politique de défense indépendante, même si nous avons bien sûr des alliés avec les pays de l'OTAN et évidemment les États-Unis.
Parfaitement. Donc, j'imagine que le sens 4, car en fin 2017, vous avez proposé déposé une proposition de création d'une commission d'enquête. Oui. Donc, j'imagine déjà pour répondre à toutes les interrogations que vous venez de soumettre. Comment celle-ci a-t-elle accueillie? Avez-vous subi des pressions suite à ça? Et croyez-vous qu'elle puisse aboutir? Et qu'en attendez-vous si celle-ci était acceptée?
Alors, comme je n'étais pas très satisfaite des réponses qui m'ont été apportées, j'ai donc décidé de déposer cette proposition de résolution pour une commission d'enquête. Parce que, comme vous le savez sans doute, dans les commissions d'enquête parlementaires, on ne peut pas mentir aux parlementaires. Il y a un devoir de transparence. Cela dit, je ne me faisais guère d'illusions et les faits ont prouvé que j'avais raison de ne pas me faire d'illusions, puisque l'on m'a bien dit qu'il y avait eu quand même des pressions assez importantes de la défense pour que cette commission d'enquête ne soit pas établie. Et donc, elle ne sera très certainement pas établie, sauf miracle, bien sûr. Mais il y a longtemps que je ne crois plus vraiment au miracle.
Entendu. Nous avons aussi appris au début de cette année qu'en 2005, donc, avant la passation de ce premier accord cadre, de ce premier open bar, donc, qui a été renouvelé deux fois depuis, en 2005, une étude aurait préconisé migration des systèmes d'information de la défense vers du logiciel libre. Un rapport donc, qui aurait été approuvé par la ministre de la Défense de l'époque, Madame Michèle Alliot-Marie. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons découvert. Deux questions en ce sens. Déjà, l'existence de ce rapport et de cette volonté à l'époque du ministère de la Défense de favoriser le logiciel libre vous a-t-elle surprise? Et soutenez-vous finalement aussi, de manière plus générale, cette volonté de migrer vers du logiciel libre? Nous savons notamment que pendant l'étude du projet de loi République numérique, vous aviez défendu un amendement portant une priorité au logiciel libre.
Absolument. Moi, je crois beaucoup au logiciel libre pour ces raisons de sécurité prouvées. Parce que le géant Microsoft, je l'ai dit tout à l'heure, a présenté quand même beaucoup de failles que nous n'avons pas vues dans le logiciel libre. Et en plus, souvenons-nous que la gendarmerie utilise le logiciel libre et avec grand succès. J'ai eu l'occasion d'en parler avec d'anciens responsables de la gendarmerie qui m'ont dit qu'ils avaient aussi subi pas mal de pression pour signer avec Microsoft, qu'ils avaient tenu à avoir ce logiciel libre et qu'ils s'en étaient félicités. Alors en ce qui concerne la ministre de la Défense de l'époque, Michèle Alliot-Marie, j'avoue que j'ai soulevé le problème avec elle. Elle se souvenait qu'effectivement il y avait eu un débat, mais c'est quand même un peu lointain et voilà, elle ne savait plus exactement comment il y avait eu évolution du processus de décision quant à l'utilisation de Microsoft plutôt que le logiciel libre. Mais en tout cas, moi, je regrette bien sûr cette décision de ne pas avoir opté pour le logiciel libre.
Entendu. Alors peut-être une question pour changer un peu de sujet, mais rester bien sûr sur la question de l'open bar. C'est vrai que nous avions déjà eu l'occasion, depuis notamment le dépôt de votre question écrite en 2014, d'avoir des échanges avec vous et avec votre équipe. Que pensez-vous donc de ce travail, de ces allers-retours entre la société civile avec des parlementaires? Est-ce que vous pensez que c'était finalement un mécanisme sain et normal, démocratique? Alors là, je vous donne mon point de vue par cette question. Et quelle importance accordez-vous à ce genre d'échange et plus spécifiquement sur cette typologie de dossier-là qui est marquée par une forte opacité?
Bien sûr, moi je crois en la société civile, je crois au Parlement qui nous semble menacé actuellement. Bon, ça c'est un autre débat, mais on voit bien que l'exécutif essayait de rogner les pouvoirs du Parlement de plus en plus, les pouvoirs d'amendement. Enfin bon, encore une fois, c'est un autre débat. Mais il me paraît absolument indispensable que la société civile s'implique aux côtés des parlementaires sur des sujets qui les concernent directement. La souveraineté du peuple appartient au peuple, appartient à chaque individu. Chaque individu doit se mobiliser et s'intéresser à toutes les questions qui le concernent, en particulier en termes de sécurité. Et la sécurité numérique est très importante. Et encore une fois, chaque personne détient une part de la souveraineté populaire et doit utiliser cette marge de manœuvre, de réflexion qui est la sienne pour pouvoir aussi peser sur le débat public par l'intermédiaire des parlementaires, par exemple. Et moi, je suis toujours à l'écoute de toutes les idées, de toutes les réactions, de tout ce qui peut susciter débat, problème, parce que je suis là pour servir mes concitoyens, pour servir mon pays et pour essayer, bien évidemment, d'améliorer la situation globale. Et je pense vraiment, sincèrement, que cette question de souveraineté numérique en France, mais aussi en Europe, est une question absolument cruciale, qui le sera de plus en plus. Et nous ne pouvons rester passifs et indifférents face à cette grave problématique.
Merci beaucoup pour ces réponses très précises et qui posent très bien, je pense, les enjeux du débat. Donc, merci à vous.
Merci à vous.
Eh bien, vous venez d'écouter donc l'interview de la sénatrice Joëlle Garriaud-Mellam, qui est donc une sénatrice Les Républicains et qui est secrétaire de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Donc c'est un travail très important qu'elle mène. Il nous reste très peu de temps sur cette partie open bar, donc je vais quand même repasser d'abord la parole à Étienne Gonu, parce que la sénatrice a eu des moments très forts. J'avais l'impression d'être dans une série noire avec de la mafia, pression auprès de parlementaires. Enfin, ça a l'air d'être assez hallucinant.
On voit très bien à quel point peut-être ça se joue à des hautes sphères, enfin le pouvoir déjà que peut avoir Microsoft au sein de l'État français. Ça me fait penser à cette anecdote, on parlait de la gendarmerie, hein, qui on avait une lettre interne, je crois que c'est Maxime Pack qui l'avait révélée, une lettre interne dans laquelle elle disait qu'il fallait agir discrètement pour pas que Microsoft vienne mettre des bâtons dans les roues de leur projet de migration vers du logiciel libre. Donc, je pense que ça... On est clairement dans une situation, on parlait de captation, là on est vraiment où on peut penser au comité d'experts qui parlait d'addiction au logiciel Microsoft. Là je pense qu'on est directement dans ce sujet-là. Je pense qu'on peut préciser rapidement, revenir sur la question de la commission d'enquête. Alors, pour préciser, hein, il s'agit bien donc d'une commission, toute personne convoquée est tenue de se présenter et témoigne sous serment. Donc là on est... Il y a un formalisme important autour de ça. Alors, c'est vrai que la sénatrice parle de miracle. Bon, pour mettre en perspective, hein, on peut aussi déjà penser, nous, ça faisait quelques temps qu'on militait pour la création, enfin, au moins le dépôt de ce genre de demande, un an avant qu'elle soit déposée. Ce qui tenait du miracle, c'est peut-être le fait même qu'elle aurait été déposée. Donc on avance, et c'est tout l'enjeu, comme on le disait plus tôt, de créer un rapport de force qui permettra la tenue d'une telle commission. Donc...
Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que chacun peut agir, chacune peut agir, ne serait-ce que, par exemple, en informant les parlementaires, alors qu'ils soient sénateurs, sénatrices ou députés, parce qu'il peut y avoir aussi une commission d'enquête qui peut être créée au niveau de l'Assemblée nationale. Et effectivement, l'importance de cette commission, c'est ce côté effectivement formel, c'est un petit peu comme la justice, finalement, on est obligé de... Les personnes convoquées sont obligées de venir s'exprimer, et sans mentir, parce que si elles mentent, elles risquent effectivement des choses importantes. Et donc l'idée, c'est de faire venir les gens qui, à l'époque, ont pris la décision et donc qui savent ce qui s'est passé et qui pourraient lever finalement le mystère qu'évoquait Marc Reiss tout à l'heure, qui ne comprenait pas ce qui s'était passé entre 2006 et 2008. Pourquoi tout d'un coup, alors qu'effectivement il y a des signes très forts en faveur du logiciel libre, il y a un contrat open bar qui est signé malgré des avis très fortement opposés. Marc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce dossier open bar, sur lequel on reviendra évidemment dans d'autres émissions?
Oh, tout simplement, j'ai envie de feuilleter la revue stratégique 2017. La revue stratégique, c'est pas un fanzine, c'est un texte qui est rédigé par des personnes haut gradées du ministère des Armées à la demande du président de la République et qui est destiné à fixer un cadre stratégique pour l'élaboration des prochaines lois de programmation militaire. Donc, grosso modo, c'est tout ce qui touche vraiment au cœur du secteur. Et au fil de ces pages, la revue stratégique, en tout cas ses auteurs, ont constaté la suprématie des États-Unis dans toutes les dimensions d'espace numérique, matériel, technologique, économique, juridique, politique et militaire. Et c'est une suprématie qui est, je cite, d'un contraste saisissant avec la situation des Européens qui demeurent fortement dépendants de l'extérieur et dont les investissements, comme les acteurs, peinent à atteindre une taille critique. Voilà, donc on continue dans cette drôle d'histoire l'apparence d'un Super 8 continue avec des hauts et des bas, des chauds et des froids. Et là, on a en tout cas un document officiel qui est rédigé à demande du président de la République et qui témoigne de la forte dépendance aux solutions américaines, qui dénonce le fait que les États-Unis, finalement, ils ont une emprise sur l'ensemble de ces secteurs qui sont ultra stratégiques, d'autant plus que le code n'est pas accessible. Donc savoir exactement ce qui s'y passe à l'intérieur, c'est pas évident. Et dans le même temps, il constate, dans une logique peut-être, pour en revenir un petit peu à ce qui était dit à l'introduction, une problématique de souveraineté, que finalement, les Européens sont dans le caniveau, sont à la ramasse. Et plutôt que d'être locomotive, ils ne sont que wagons. Voilà.
Bah écoute, c'est une belle conclusion qui, effectivement, amène à la conclusion qu'il faut une volonté politique forte pour sortir de cette dépendance. Espérons que l'État français l'aura pour la prochaine édition. D'autres pays l'ont visiblement. Il y a des exemples, notamment italiens. Tout à l'heure, tu disais, Étienne, que tu parlais des pressions sur la gendarmerie. En fait, c'est pas Next Impact qui a révélé ça, c'est le site YouPress qui en a parlé. Donc, vous retrouverez toutes les références sur le site de l'April, april.org, parce qu'on a cité beaucoup de choses. La revue stratégique dont vient de parler Marc, on mettra le lien avec la citation, effectivement. Donc, on va s'arrêter là sur la partie open bar. On va terminer par les actus et puis l'annonce des prochains rendez-vous. Donc, Marc, pour l'instant, évidemment, tu restes avec nous. Comme on l'a dit tout à l'heure, écoutez, si vous voulez découvrir le logiciel libre, vous pouvez aller au prochain samedi, premier samedi à la Cité des sciences et de l'industrie, donc au Carrefour numérique, donc c'est le 2 juin 2018. Vous avez tous les jeudis soirs à Paris, dans le 11e arrondissement, des soirées de contribution au logiciel libre. Là aussi, ces soirées sont ouvertes à toutes et à tous. Vous avez les apéros qu'on a cités tout à l'heure. Tout ça se trouve sur l'agenda du libre, agendadulibre.org. Et évidemment, dans les autres régions françaises, vous avez des événements équivalents. Par exemple, à Montpellier, il y a un apéro April à Montpellier chaque troisième jeudi du mois. Sur le site de l'April, donc april.org, vous retrouverez une page qui liste toutes les références qu'on a citées. Les liens utiles, les citations, le lien vers le podcast. Vous y trouverez même une transcription. Il faut savoir que nous avons un groupe transcription très efficace et je pense que lors de la prochaine émission, nous aurons au téléphone la personne qui gère ce groupe. Donc une transcription écrite de cette émission. Avant de remercier les personnes présentes aujourd'hui, l'annonce de la prochaine émission, justement. Alors la prochaine, on sera en direct. Ce sera le 5 juin 2018 à 15h30 jusqu'à 17h. Le dossier principal que nous aborderons, ce sera la révision de la directive droit d'auteur. Alors, vous pouvez vous dire, que vient faire la révision de la directive droit d'auteur par rapport au logiciel libre, aux libertés informatiques? On est en plein dedans et pas que. Alors là, ce coup-ci, nous aurons le plaisir d'avoir Marc Reiss, qui est un peu notre expert journalistique, en plateau pour revenir en détail sur cette révision de la directive droit d'auteur et l'impact sur les libertés informatiques et même sur nos usages quotidiens. Donc je remercie Isabella de cette présentation sur le groupe de sensibilisation et de ses actions.
Avec plaisir.
Étienne Gonu, donc, est chargé de mission affaires publiques à l'April, donc il s'occupe notamment de la partie, effectivement, avec moi, de tous les dossiers institutionnels, hein, qui ne sont pas que de la défense du logiciel libre, c'est aussi une façon de promouvoir l'usage du logiciel libre dans les collectivités et, on l'espère, l'État. Marc Rez, donc, qui était avec nous, qui est rédacteur en chef de Next Impact. Je te remercie, Marc, d'avoir été avec nous. Je remercie évidemment Olivier Grieco pour l'animation au niveau régie et puis encore une fois pour que simplement pour le fait que cette radio existe parce que franchement ça fait du bien. On va finir simplement par une dernière pause musicale. Le générique que vous avez écouté tout à l'heure, les 25-30 secondes, c'est un extrait d'une musique qui s'appelle Weston, d'un artiste qui s'appelle Réa Lazé. Et donc, on va vous laisser avec cette musique. Et on se retrouve donc le 5 juin 2018, ce coup-ci, en direct.
Cause commune, 93.1, la voix des possibles.
Cause commune, cause-commune.fm.